2h54.
Chapitre 83. Jonas considéré du point de vue historique.
Nous avons évoqué, dans le chapitre précédent, l'histoire de Jonas et de la baleine dans sa réalité historique. Certains marins de Nantucket doutent de la valeur historique du récit de Jonas. Mais à ce compte, on sait qu'il y eut Grecs et des Romains sceptiques, étrangers à l'orthodoxie païenne de leur temps, qui doutèrent pareillement de l'histoire d'Hercule et de la baleine. Et de celle d'Arion et du dauphin, leurs doutes, pourtant, n'altérèrent en rien les faits rapportés par la tradition. Un vieux pêcheur de Sagarbor, incrédule quant au récit hébraïque, avançait l'argument suivant, essentiel à ses yeux. Il possédait une curieuse Bible à l'ancienne mode, agrémentée de planches pittoresques et fort peu scientifiques, dont l'une représentait la baleine de Jonas avec deux souffles jaillissants des deux évents. Singularité qui ne s'observe que chez une seule espèce de léviathan, la baleine franche, et toutes les variétés de cette famille, dont les pêcheurs disent qu'un petit pain d'un sou suffirait à l'étouffer, tant elle a le gosier étroit. Mais à cette objection, l'évêque Jeb a répondu par avance. Il n'est pas nécessaire, explique l'évêque, que nous considérions que Jonas fut enseveli dans le ventre de la baleine, mais temporairement logé dans quelques recoins de sa bouche. L'argumentation du bon évêque ne manqua pas de justesse car, en vérité, la bouche de la baleine franche est assez spacieuse pour qu'on y dresse deux tables de whist et qu'on y installe confortablement tous les joueurs. On ne saurait exclure également que Jonas se soit blotti dans une dent creuse, mais, à la réflexion, la baleine franche n'a pas de dents. Une autre raison mise en avant par Sagarbor, tel était son nom, pour justifier son incrédulité à l'endroit du prophète, avait trait, obscurément, à la captivité de ce dernier parmi des sucs castriques de la baleine. Mais cette objection tombe également un exégète allemand suppose que Jonas dut trouver refuge dans le corps flottant d'une baleine morte, de la même façon que les soldats français de la campagne de Russie, après avoir transformé les cadavres de leurs chevaux en tentes, s'y mettaient à l'abri. En outre, tels des commentateurs européens, on crut pouvoir conjecturer que Jonas, lorsqu'il fut jeté par-dessus bord, s'empressa de fuir vers un vaisseau voisin qui avait une baleine pour figure de proue, et dont je parierais qu'il devait s'appeler la baleine, comme d'autres, aujourd'hui, se nomment le requin, la mouette ou l'aigle. Et il ne manque pas de savants interprètes pour penser que la baleine mentionnée dans le livre de Jonas désignait une simple bouée de sauvetage. Une vessie gonflée d'air, que le prophète en péril rejoignit à la nage, échappant ainsi à la destruction par l'eau. Le pauvre Sagarbor semble bien avoir été mis en déroute sur tous les fronts, mais il lui reste encore une raison de douter. Si j'ai bonne mémoire, voici quelle elle était. Jonas fut avalé par la baleine en Méditerranée, et, après 3 jours, vomit quelque part à 3 jours de marche de Ninive, une cité des bords du Tigre qui s'est trouvée à bien plus de 3 jours du point le plus proche de la côte méditerranéenne. Qu'est-ce à dire ? N'y avait-il pas d'autre moyen pour la baleine de déposer le prophète à cette courte distance de Ninive, si elle aurait pu l'y transporter en empruntant la route du Cap de Bonne-Espérance ? Mais, sans parler de la traversée de toute la longueur de la Méditerranée, ni celle du golfe Persique et de la mer Rouge, pareille hypothèse implique qu'elle eût accompli en 3 jours une curquie. Mais, sans parler de la traversée de toute la longueur de la Méditerranée, ni de celle du golfe Persique et de la mer Rouge, pareille hypothèse implique qu'elle eût accompli en 3 jours une circumnavigation complète autour de l'Afrique. Et l'on ne mentionne pas ici les eaux du Tigre, près du site de Ninive, qui était encore peu profonde pour qu'une baleine pût y nager. D'ailleurs, imaginez que Jonas ait doublé le cap de Bonne-Espérance à une époque aussi reculée reviendrait à dépouiller Bartholomew Lomodias, découvreur fameux de ce vaste promontoire, de la gloire de sa découverte, et à faire ainsi mentir l'histoire moderne. mais tous ces arguments stupides du vieux Sagarbor ne démontrent que son fol orgueil, chose d'autant plus répréhensible qu'il n'avait guère reçu, en fait d'instruction que les leçons du soleil et de la mer. Fol orgueil, dis-je, arrogance impie, acte de rébellion abominable et diabolique, contre les révérés clergés. Un prêtre catholique du Portugal, en effet, a expliqué que l'idée d'un voyage de Jonas à Ninive via le Cap de Bonne-Espérance pouvait se comprendre comme l'image magnifiée d'un miracle que compte l'histoire. Et c'est bien ce qu'il fut. Ajoutons que, aujourd'hui encore, les Turcs les plus éclairés croient dévotement à l'authenticité historique de Jonas. Un voyageur anglais cité dans les voyages de Bondaris évoque, c'était il y a 300 ans, une mosquée turque construite en l'honneur de Jonas, dans laquelle brûlait, sans huile, une lampe miraculeuse.